If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Pourquoi t'as choisi de faire ce boulot-là, toi?
Bah, si je fais journaliste, c'est évidemment pour être célèbre. Moi, je veux être connu. Tu sais pourquoi? Pour niquer les gonzesses.
Salut, c'est NoCiné, votre rendez-vous avec le cinéma qui vous revient, comme ce sera le cas chaque mois désormais en version NoCiné Club, une bonne heure de débats enflammés autour des grandes et petites histoires de ce beau monde de strass, de paillettes, de tournages, de projets et bien d'autres choses encore qu'on appelle le cinéma, une heure au cours de laquelle vous serez bercé par les douces voix de nos quatre cinéphiles tout terrain réunis ici à l'antenne Paris. Anaïs Bordage, salut Anaïs.
Salut.
Alexandre Hervaux, salut Alex.
Bonjour Thomas.
David Honora, salut David.
Salut tout le monde.
Et Stéphane Moïsakis, salut Stéphane.
Salut Toto.
Les suites des affaires de harcèlement, ça m'a perturbé du coup, les suites des affaires de harcèlement, le potentiel élargissement de l'ogre Disney, le manque d'appétit de Scorsese pour les Rotten Tomatoes sont au programme. C'est le NoCiné Club, deuxième épisode, et c'est parti.
Bon, ça va, on vous fait pas chier là. Non, c'est sûr, je rêve.
Et avant toute chose, sachez que si vous nous suivez en direct sur Facebook et YouTube, d'ailleurs on fait un petit coucou à la caméra qui nous filme, bonjour la caméra, vous pouvez interagir avec nous dans les commentaires, interpellez-nous, posez-nous des questions, on tâchera de répondre au meilleur, c'est promis. Allez, on commence. Difficile de passer à côté tant l'automne aura été rythmé par la tornade de l'affaire Weinstein, les révélations sur les agressions sexuelles à répétition dont il serait l'auteur, sur l'omerta dont elles ont fait l'objet alors que visiblement beaucoup de monde était au courant à Hollywood et ailleurs. Affaire Weinstein suivie par l'affaire Spacey, Kevin Spacey étant à son tour embarqué dans une avalanche de témoignages de victimes de ses gestes déplacés, puis dans une moindre mesure, car il est moins connu chez nous, l'affaire Louis C.K. Tout ça entraînant Hollywood plus focus que jamais à faire un examen de conscience express en décidant d'excommunier les coupables. Spacey dégagé de House of Cards, Ridley Scott reshoot tous ses scène dans All the Money in the World en le remplaçant par Christopher Plummer. C.K. voit ses deals avec HBO et Netflix partir en autre boudin et la sortie de son film I Love You Daddy lourdement compromise au-delà des faits, des affaires qui sont du ressort de la justice maintenant et on n'est pas dans un tribunal populaire. Qu'est-ce que vous pensez, les amis, des conséquences industrielles de ces scandales de harcèlement? Ça vous inspire quoi? Anaïs, tiens, c'est toi qui commence. T'as pas de bol, hein? Ça tombe ouais. Sur toi.
Non, bah, moi, je pense que c'est très bien qu'il y ait une réaction large. Ça n'a pas toujours été le cas à chaque fois qu'il y a eu des scandales de ce type. Donc là, c'est bien de voir les gens réagir, même si c'est évidemment pour se protéger eux-mêmes avant tout. Il y a un business à faire tourner et pour le film de Ridley Scott, bah, c'est très bien ce que ça pourrait lui coûter si Kevin Spacey restait dans son film, puisqu'il aimerait bien faire la course aux Oscars, etc. Donc, on sait qu'il y a un petit côté cynique derrière tout ça, mais je trouve que c'est quand même bien qu'il y ait une réaction. Louis C.K., ça fait très longtemps que tout le monde savait. C'est assez cool de voir que la réaction a été immédiate, quoi. C'est comme si les gens l'attendaient avec impatience. Voilà, on peut même plus trouver tous ses projets sur HBO. Enfin, il a été complètement rayé de la carte. C'est pas plus mal parce que ça faisait très longtemps que les gens attendaient que ce genre d'affaire sorte, quoi.
Pour le coup, moi, je trouve que c'est un problème et que ça montre une très forte hypocrisie, en fait, sur le fait de rayer la carte. En fait, c'est une manière aussi de se dédouaner. C'est-à-dire que Louis C.K. a bossé avec HBO et donc HBO, d'une certaine manière, a été complice de ces agissements. On ne sait pas dans quelle mesure, effectivement, c'est l'affaire de la justice, mais ce que je trouve hyper cynique et hyper hypocrite dans le fait de laver plus blanc que blanc et de faire disparaître les collaborations, c'est que ça n'apporte strictement rien, et en plus ça crée davantage de confusion sur, il y a cette petite rengaine qui revient souvent sur ce genre de questions, c'est il faut séparer
l'artiste de
son œuvre. Sauf que si on commence à balancer l'œuvre quand l'artiste déconne, ça veut dire qu'aussi dans l'autre sens on n'est pas cohérent.
Ouais,
il y a, oui,
Excuse-moi, non, vas-y, je te laisse parler.
Non, enfin, je pense que ça envoie quand même un signal assez fort. La raison pour laquelle autant d'hommes se sont comportés ainsi, c'est parce qu'ils avaient un sentiment d'impunité. Et évidemment, c'est ultra cynique et je dis pas que c'est une solution parfaite, mais c'est mieux que de ne rien faire, quoi. C'est envoyer un signal que ça ne sera plus toléré et c'est déjà pas mal, quoi.
Il y a quand même d'autres manières de punir Kevin Spacey que de le remplacer par Christopher Plummer dans un film, quoi. Enfin, c'est, je
oui, bah
je
là, c'est moins pour punir que pour leurs intérêts.
Déjà, il y a la loi, quoi. Pour commencer. Voilà. Hein, genre, tout simplement. Hein. On va parler de ça, quoi. Ensuite, moi, le problème que j'ai personnellement, c'est que bon, le film de Ridley Scott, je m'en fous. Je ne suis même pas allé chercher la bande-annonce, je ne suis pas allé voir ce que c'était, j'en ai rien à foutre. À chaque fois que les studios ont eu des problèmes avec ce genre de truc, en gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris le film, ils l'ont repoussé à la cinglingling, et en fait, ils ont attendu que tout le monde se calme.
Que tout le monde oublie. Ouais.
Parce que le truc, c'est que si Mel Gibson revient 10 ans après, Kevin Spacey reviendra 10 ans après. Hein. C'est une possibilité, et c'est surtout, c'est comme ça que fonctionne Hollywood de manière générale. Et j'ai envie de dire le public, parce que c'est aussi lui qui est concerné. Là, l'idée, en fait, de se poser la question de savoir si tout le monde savait pour Louis C.K., tout le monde savait pour Harvey Weinstein, tout le monde savait. Je veux dire, le problème, en fait, c'est qu'il y a déjà les crimes qu'eux ont commis, qui sont des crimes, donc qui sont passibles, de procès, de loi, de condamnation, ouais. etc. Donc c'est ça qu'il faut déjà mettre en avant. Et j'ai déjà peur qu'au jour où on arrivera à ça. Enfin, en gros, c'est un soufflet qui sera retombé. C'est ça qui me fait un peu chier, en fait, dans le truc. Et le truc, par rapport au film, c'est que moi, ce qui me fait chier dans cette approche-là, c'est que, OK, revenons 6 mois en arrière. OK ? Ne parlons pas du film de Ridley Scott, parlons de Baby Driver, par exemple. Et en fait, cette histoire, elle tombe 3 mois avant Baby Driver. Quand c'est un réalisateur qui m'intéresse, qui fait du bon cinéma, qui se fait chier, en fait, à vraiment essayer de contrôler ce film de bout en bout, ouais, ça me ferait chier, en fait, que, en gros, une espèce de pseudo-vindicte populaire prétend que, au-delà, en fait, de ce sur quoi on doit attaquer un mec comme Kevin Spacey, il faut en plus effectivement le rayer d'un film dans lequel il est tout simplement à sa place à la base, puisque en fait, en gros, il vient jouer un rôle. Il vient pas être Kevin Spacey. Il joue un personnage. Donc le truc, c'est que effectivement, pour moi, cette logique, c'est dans le film de Ridley Scott, j'ai envie de dire, ça me fait chier par principe, mais je m'en fous du film de Ridley Scott. Oui. Ce que je veux dire, c'est que en gros, ça aurait pu attaquer n'importe quel film, en fait, et c'est ça qui est un peu problématique. À l'époque du 11 septembre. Il y avait cette espèce de logique où toutes les stars de films d'action disaient on fera plus de films d'action, c'est terminé, et en fait les vidéoclubs enlevaient Die Hard ou tous les trucs où il y avait une tour dedans, en fait ils l'enlevaient des rayons parce que comme si en fait en gros le simple fait de voir...
Il y a eu le cas de Spider-Man dans lequel
ça c'était dans la bande-annonce. Mais comme si en fait le simple fait de faire ça allait faire en sorte que non seulement l'acte n'existe plus et en fait que les gens n'allaient pas y penser, en fait. C'est-à-dire que pour moi, je pense que l'autre problème, en fait, en remplaçant quelqu'un comme Kevin Spacey dans ce film-là, c'est que pour les gens, en tout cas, qui connaissent l'histoire, pour les gens qui connaissent pas l'histoire derrière Kevin Spacey, qui vont voir le film pour voir un film, ou qui le verront dans 10 ans ou dans 20 ans, si avec Kevin Spacey, ils se poseraient pas la question. Pour les gens qui vont le voir le film aujourd'hui, bah, il sera comme le nez au milieu de la figure, parce qu'on verra Christopher Plummer à la place, parce qu'en fait, ça sera tellement publicisé qu'on saura que ça a été fait un mois avant la sortie du film.
Et pour être cynique, je dirais que c'est quand même très con, parce qu'il est tellement maquillé dans le film qu'on le reconnaît même pas. Ils auraient juste dû changer de nom, genre l'appeler Galvin Spesso.
Genre un peu de truc, c'est passé. Nickel. Crème.
Et pour revenir sur l'histoire dont on parlait avant, là, entre HBO qui a littéralement, effectivement, rayé Spacey de son catalogue.
Sur Netflix, tu ne retrouves plus les trucs non
plus. T'es
sûr? Ouais, apparemment, ils les ont virés. Non, j'ai pas regardé
le film.
De mémoire, ils ont dit, ils ont annulé le prochain
special.
Mais à mon avis,
j'ai cru comprendre qu'ils avaient retiré. J'ai pas vérifié.
Je crois pas, parce qu'il y a encore peu de temps, tu trouvais sur Netflix un problème, un stand-up de Bill Cosby. Donc, c'est-à-dire sur leur échelle, tu vois, elle est acceptable. Le truc, c'est qu'il peut y avoir deux solutions. Effectivement, il y a celle à la Netflix où il a dit. Ils ont dit en gros, on annule le deal qui nous lie.
On vient de vérifier, ils y sont toujours.
Ils y sont toujours.
À l'instant, voilà, sur le téléphone de David Honora,
ils y sont toujours. C'est leur politique, c'est-à-dire qu'ils ont pris une décision, genre on coupe les liens avec ce mec-là, etc. Mais ce qu'ils ont déjà de lui, qui est antérieur au fait, ben, ils le gardent. C'est pas dans une espèce de logique quasi révisionniste de HBO où, on va dire comme si de rien n'était, on se lave les mains, on n'est pas associé à ce mec-là, deal with it, tu as produit ce mec-là, t'en es pas fier maintenant, et ben c'est tant pis, tu assumes. Il y a des gens qui se sont abonnés à ton service presque pour lui, sans doute. Faut pas se leurrer. Récemment, Netflix a fait une campagne de promo énorme sur tout son volet humoristique. Oui. Sur son catalogue, il y avait des grosses
notamment
pubs partout,
Seinfeld,
Netflix is a joke.
On avait fait une émission là-dessus.
Et au même titre que Seinfeld, Louis C.K. faisait partie de Louis Chappelle, il fait partie de ces produits d'appel,
David Chappelle,
pardon. je fais des mashups de noms. Donc il faisait partie de ces produits d'appel. Et bon, bah, moi je trouve à la limite dans le registre punition, avec plein de guillemets, punition non pas légale, judiciaire, mais punition de l'industrie vis-à-vis de ces moutons noirs, je pense que la voie de Netflix est la plus mesurée et la plus raisonnable. C'est-à-dire qu'on prend acte, on sanctionne, mais on joue pas les vierges effarouchées avec cette espèce de truc caché la poussière sous le tapis.
D'autant plus que c'est un peu déresponsabilisé quelque part le public. Il y avait un article dans Télérama, pour une fois je vais citer Télérama, oui excusez-moi, il y avait un article dans Télérama qui était assez intelligent sur le site de Télérama là-dessus, qui disait que c'était déresponsabiliser énormément le public que de prendre ce genre de décision. Si le public est choqué, et légitimement il l'est, on l'a bien vu avec les réactions qu'il y a eu sur le net notamment, c'est à lui de ne plus suivre, de ne plus regarder aussi ses artistes, mais c'est pas forcément à l'industrie de prendre ce genre de décision. C'est aussi nous enlever aussi beaucoup de responsabilités.
Le problème en fait, c'est que ça participe d'un truc qui est périphérique au scandale en fait Weinstein. C'est-à-dire que quand le scandale Weinstein est sorti, il y a les comportements de gros porc du mec qui ont été après je veux dire chaque cas vérifiable, mais je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu donc le truc c'est que voilà, et puis c'est connu depuis des années, mais il y a aussi l'idée de attends, lui il a bossé avec machin, donc il faut qu'il se dédouane, il faut qu'il se justifie quoi. Et ça c'était déjà une autre logique, parce que le problème c'est qu'en fait tu te retrouves dans une espèce de situation où quand c'est Ben Affleck ou des mecs comme ça, bon, on peut comprendre quoi, et d'un seul coup quand t'es un simple stagiaire, un simple bidule, un simple machin, enfin un simple personne qui travaille pour Miramax, il faut que tu justifies une espèce de, enfin c'est pas cohérent en fait comme espèce de vindicte généralisée en fait. Tu savais que ton boss était un enculé, bah t'aurais dû poser ta dème. Dans le vrai monde, ça marche pas.
J'ai l'impression qu'on s'en est quand même plus pris à lui qu'à ses assistants, quoi. Enfin,
non, je parle de manière générale, on s'en est pris à toute la galaxie, en fait, Weinstein. Mm. Et après, tu peux partir du principe que Ben Affleck, t'as des vidéos où il se tripote les gonzesses un peu à droite à gauche, donc bon, c'est un peu le cochonou, quoi. Mais t'as envie de lui dire, fais pas le malin avec un espèce de tweet officiel pour dire je suis choqué quand t'as des vidéos partout sur YouTube quoi, tu vois. Ouais. Juste tais-toi quoi, tu vois. Ouais. Mais bon, après t'as d'autres personnes qui sont pointées du doigt comme il s'appelait Matt Damon, où apparemment lui il était un peu plus pas vraiment au fait. Mais tout ça c'est discutable, et je pense que ça participe de cette logique là, c'est ça que je veux dire, c'est-à-dire que cette idée de dire on n'a pas travaillé avec InSpecie, bah si. Et en plus, c'est connu, quoi.
Exactement, enfin, voilà, David. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'il y a d'une part, ça déresponsabilise le public, mais ça les studios, les producteurs, eux-mêmes aussi essayent de se déresponsabiliser pour, en gros, effacer leur collaboration, plutôt que de se poser la question comment faire en sorte, comment mettre en place des mesures pour que ce genre de cas, qui sont quand même particulièrement fréquent dans ce milieu en particulier, ne se reproduisent pas.
Mais ça va peut-être venir. Enfin, une des premières mesures déjà, c'est de virer les gens qui sont coupables de ce genre d'agissement. Et après, j'espère qu'il va y avoir d'autres mesures prises et que, tu vois, genre, ils vont tous réfléchir collectivement. C'est pas sûr. Hein.
En cachant tout sous le tapis.
Est-ce que ça va vraiment être le cas ?
On va c'est oublier, clair. Quoi.
Après,
mais là, j'ai l'impression quand même que ça dure vachement plus longtemps et que c'est pas un truc qui est retombé en 3 jours. Il y a quand même
un effet boule de neige. Hein, mais ouais, le truc après, c'est
pas prêt de s'arrêter, je pense.
Ouais, après, je veux dire, à mon avis, effectivement, dans ce milieu-là, de toute façon, des gros dégueulasses, il y en a, c'est évident. Donc, mais les noms qui ressortent. Bon, moi qui ai une Spacey, je savais qu'apparemment il y avait une réputation de mec pas cool, quoi, mais j'avais pas compris que c'était ce niveau-là. Mais un mec comme Louis C.K., c'est quand même. T'as quand même des vedettes hein, qui l'ont outé il y a déjà deux ans. Hein, Tig Notaro, l'avait outé il y a déjà 2 ans et ça a pas pris. En fait,
le truc n'est pas du tout un épiphénomène. Et ouais, là, ce à quoi on assiste depuis plusieurs semaines, bientôt plusieurs mois, va profondément changer l'industrie. Il y a déjà des syndicats. Enfin, pas des syndicats, mais des cellules, ne serait-ce qu'une cellule d'enquête. Il y a des gens qui ont sorti en blaguant sur Twitter des faux logos de CSI, les experts Hollywood. Sauf qu'au-delà de la vanne, ça va devenir vrai. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des cellules d'enquête qui vont se faire.
Déjà le cas. Enfin, tous les scoops qui sont sortis en fait, après Weinstein, c'était aussi les journalistes qui se sont mis sur le cas et qui se sont dit c'est sans doute pas le seul, donc va trouver d'autres personnes. Il y a plein de gens qui témoignent. Enfin, c'est énorme.
D'ici au prochain Oscar, après, février, janvier, il y aura effectivement que Meryl Streep dans la salle.
C'est clair.
Je veux pas foutre un peu les pieds dans le plat non plus par rapport à ça, mais je trouve que la problématique générale, c'est que je pense aussi que c'est la raison pour laquelle en fait cette histoire, au-delà encore une fois des crimes commis quoi, des accusations, je veux dire la raison pour laquelle en fait tout ça ressort aussi, ce n'est pas uniquement en fait sous couvert de de juger les coupables ou de les mettre sur la place publique. En fait, il y a quand même énormément de un aspect people qui est monstrueux là-dedans. Enfin, Weinstein, ça ressort parce qu'il a absolument touché toutes les vedettes. Et du coup, en fait, bah, les médias s'en donnent à cœur joie à dire ah, il y a Angelina Jolie, il y a Gwyneth Paltrow, il y a machin, etc., etc. Et je pense que c'est ça qui participe aussi au buzz et ce qui est du coup un peu crapoteux, parce que quand t'as une affaire avec Bryan Singer comme il y a 2 ans ou 3 ans,
oui, ça c'est vrai, il y a deux poids deux mesures évidentes, mais
voilà, ça ressortait, c'était réglé, c'était bon. En fait, il y avait un settlement, comme on dit,
un accord financier,
voilà, et démerde-toi, et ça retombait complètement. Encore une fois, là, parce que Singer et Gary Goddard reviennent sur le devant de la scène aussi, avec ces histoires-là, avec In Spacey et tout ça aussi, quoi. Donc, du coup. En fait, c'est là où je me pose la question justement de est-ce que ça va vraiment en fait avoir un impact tant que comment dire, enfin tant que les médias en fait continuent pas à entre guillemets buzzer leur truc pour leur propre bénéfice, quoi. C'est ça le truc.
Il y a un truc si on peut revenir 2 secondes sur le cas de Louis C.K. Moi, c'est un des premiers cas auxquels j'ai pensé quand l'affaire Weinstein est sortie, notamment parce que son mode opératoire de se masturber devant les victimes est le même. Et je me suis dit, Louis C.K. va forcément tomber dans les mois qui viennent, d'autant qu'en fait, le film qui sort, est un film
qui est sur Woody Allen
entre Woody Allen et lui-même. Donc il y a vraiment le mec qui joue avec le feu, quoi.
Mais il sort pas du coup le film.
Et le film n'est pas sorti aux États-Unis, donc devait sortir cette semaine et ne va pas sortir.
Il devait sortir en France le 27
décembre.
C'est
repoussé. Les projections presse ont été annulées. Et a priori c'est très compliqué.
C'est mal barré.
Mais enfin, il y a pas que ce film. Je veux dire toute sa série. Il parle de ça.
Enfin, un nombre
de fois où il
se
tape des queues dans Louis,
il agresse aussi sa copine dedans, sa compagne, pas vraiment plus ou moins compagne.
Et elle fait une blague sur le fait qu'il devrait pas se masturber devant elle.
Ouais. Ouais. Oui, c'était assez transparent dans son œuvre, on va dire. On a quelques questions d'internautes, les amis, sur les problèmes de harcèlement. Nous demande Sublime Tricasse, nous demande notamment si c'est pour toute cette histoire qu'on n'a pas parlé du nouveau Polanski. Bah non, en fait, c'est parce qu'on s'en fout.
C'est parce qu'il est très bien dans
nous. Ouais, au ciné. Ouais. C'est parce que
il en a pas sorti 3
mois. Mais le film a dû faire un bide monstrueux.
Anaïs,
tu l'as vu toi, Anaïs?
Oui, je l'ai vu, c'était pas bien.
Ah bah voilà. Bah voilà, l'émission est faite, c'est pas bien. Merci. On nous demande si on a vu la rétro.
C'était pire que la Vénus à la fouet.
Franchement, ouais.
Ah putain, alors, ah ouais, c'est vraiment de la
ah, c'est chaud quand même. Tom Hotwood nous demande si on a vu du coup la rétro Polanski à la Cinémathèque ou si ça nous bloque. Quelqu'un est allé voir, quelqu'un est bloqué, Alexandre.
Moi, ce qui m'a bloqué, c'est les horaires, tardifs. Et par rapport à la ligne de métro, c'est un peu chiant pour moi niveau correspondance.
Ouais.
Et du coup,
c'est vachement intéressant.
Voilà, et du coup,
tu boycottes.
Non, mais du coup, non, en vrai, je comptais vraiment, j'ai jamais vu Le Locataire. Enfin, il y a plein de films considérés comme majeurs de Polanski que j'avais pas vu. Là, c'était l'occasion, ça aurait été l'occasion pour moi d'aller voir sur grand écran découvrir Le Locataire, par exemple, entre autres. Et malheureusement, je l'ai pas fait.
Moi,
du coup,
c'est son dernier grand film après le.
Ouais. Du coup, c'était une coïncidence temporelle, mais au moment durant les rétrospectives, avec tout le tapage qu'il y avait autour, j'en ai profité aussi pour combler une autre des lacunes polanskiesques que j'avais. Ça, j'avais jamais vu Le Bal des Vampires. Ils ont pris en VOD, découvert sur un vidéo proche, et ça marche très bien.
T'avais vu quoi? De Polanski.
J'avais vu Rush Hour 3.
Frantic.
C'est son meilleur.
Et pour dire un mot sur la Cinémathèque, il y a deux choses qui me posent problème. C'est
loin de chez toi, aussi.
Non, alors en fait, ils ont annulé après la rétrospective Polanski, la rétrospective Jean-Claude Brissot.
Ouais, ça c'est génial.
En fait, pour moi, il y a une incohérence qui a tendance à presque dédouaner Polanski vis-à-vis de Brissot. C'est-à-dire pourquoi maintenir à toute force la rétrospective Polanski et annuler celle de Brissot. Et l'autre question, qui pour moi est encore vraiment le fond du sujet, on n'arrête pas de répéter qu'il faut séparer l'artiste de l'œuvre. On peut très bien faire une rétrospective sans des films à la Cinémathèque sans inviter ces connards, quoi. Enfin, à un moment, Et le truc n'est jamais mis sur la table.
Enfin, le truc, c'est que je ne sais pas si vous vous souvenez de la façon dont c'est ressorti dans les années 2008-2009, je ne sais plus quand est-ce qu'il a été arrêté.
Tu parles de
Brissot.
Polanski.
Quand il a été arrêté.
Il y avait une véritable logique justement de ne pas séparer l'artiste. C'est-à-dire que comme c'est un grand artiste. C'est pas grave. Voilà, il n'y avait, avait pas de. Voilà.
Et il y a eu le cas aussi sur, sur Brissot, où que j'avais pas très bien suivi.
C'est un peu moins un grand artiste que Polanski.
Bah, ça, ça se discute. Hein, moi, enfin, moi, je, moi j'aime ses films. Et il y avait eu cette histoire à l'époque de ses jugements. Il avait été défendu notamment par Antoine Debecq et certains de ses textes sont ressortis récemment. Où il expliquait qu'en gros, quelqu'un qui est capable de faire de si grands films ne peut pas être coupable. Et donc c'est vraiment cet inversement qui est ça, c'est scandaleux.
Ça, c'est complètement absurde, mais le truc, enfin, c'est juste complètement con. C'est débile comme logique, mais le truc, c'est que par contre, le truc aussi avec Brissot, peut-être la distinction, on va dire, éventuelle avec. Vous avez fait tomber votre bière. Décidément.
Bravo.
En fait, la grosse distinction, peut-être, c'est que les films de Polanski ne parlent pas forcément de l'histoire de Polanski, alors que les films de Brissot. Évoque comment dire la pédophilie, enfin tout ça, enfin voilà tout, donc les trucs donc en gros c'est peut-être aussi là où le souci se pose, parce que il y a faire une rétrospective et puis il y a mettre les spectateurs devant les films en fait en question quand tu les connais pas, et
parfois est plus proche de Louis C.K. dans cette
non parce que en plus lui c'est beaucoup plus érotique carrément par rapport à Louis C.K. où c'est plus cru, on va dire, plus enfin, voilà.
Et c'est pas ce qui va nous amener Jeepers Creepers 3. Hein.
Non. Ouais.
Autre sujet,
autre sujet complexe.
Je peux pas te dire, j'ai envie de voir ce film, mais en fait, faut pas que je le voie.
Le problème de Jeepers Creepers, après, il est encore autre. C'est que, est-ce qu'on achète, pour résumer peut-être très rapidement, Jeepers Creepers, c'est les films de Victor Salva. Victor Salva, c'est un cinéaste, en fait, de films d'horreur. Qui a été accusé de condamné de pédophilie, qui a commis ces actes-là, hein, sur un des jeunes acteurs qui jouait dans un de ses premiers films qui s'appelait Clone House.
Ouais.
Et il a purgé sa peine.
Ouais.
Donc après, la question, elle se pose de savoir si on peut discuter la durée de la peine, on peut discuter de ces choses-là, on peut évidemment prendre en compte totalement la souffrance des victimes, etc. etc. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais à quel moment, en fait, on décide, parce que c'est ce qui est ressorti aussi là, c'est à quel moment est-ce qu'on décide en fait quelque part il a payé sa peine à la société, en fait, quelqu'un comme Victor Salva, surtout qu'il n'a pas récidivé en fait depuis, c'était il y a 25 ans, donc à ma connaissance. Donc c'est aussi ça le c'est-à-dire que pour moi, à mon avis, chaque cas est spécifique en fait, et c'est aussi ce qui, à mon sens, se perd un petit peu dans les débats actuels sur tout ça, quoi. Même si, encore une fois, bon, voilà, c'est, il n'y a pas de fumée sans feu.
Oh, c'est beau. Ouais, c'est beau.
Non, mais je boucle la boucle.
Tu boucles la boucle, c'est magnifique. On va continuer notre Nos Ciné Club, mais c'est désormais une tradition. Avant notre prochain sujet, on joue. Et on va commencer par un petit quiz à destination de nos amis autour de la table. Comme on s'apprête à tous souffrir collectivement en allant voir par abnégation pour notre métier de critique, sauf David Honora qui a décidé de ne plus aller voir les films de super-héros, le dernier chef-d'œuvre du DC-verse Justice League, petit quiz sur le héros le plus cool de la création, Batman. Est-ce que vous êtes prêts ?
C'est un film avec les joueurs du PSG, moi, d'après ce que j'ai su.
C'est ça, c'est un film avec les joueurs du PSG. On va mettre le petit chronomètre pour faire un peu sérieux. Première question, à 5 ans près, quand a été créé Batman ?
1939.
42.
39. Non, c'était trop tard.
C'était
pas,
mais
t'as 5 ans près. Au cinéma, combien d'acteurs ont endossé le costume de l'homme chauve-souris ?
6.
Ouais, bien joué. 6. Effectivement. Ouais. Très fort, David. Plus vache, dans la version originale de l'excellente série animée Batman The Animated Series de Bruce Timm, quel acteur culte par ailleurs prête sa voix au Joker ?
Mark Hamill.
Oui, c'est Mark Hamill. Voilà. Bien joué. On a tous en mémoire, malheureusement, la performance de Chris O'Donnell en Robin chez Joel Schumacher, mais souvenez-vous, est-ce que vous vous souvenez de qui était l'actrice qui interprétait
Alicia Silverstone ?
Oui, c'est Alicia Silverstone.
Moi, j'ai cru qu'il était Robin dans la série télé.
Non, je sais que c'est. À part le Joker, qui lui en a eu 3, si on compte ce pauvre Jared Leto, quels autres grands méchants de l'univers Batman ont eu le droit à 2 interprètes différents au cinéma ?
Catwoman, Halle Berry.
Alors, t'es pas tout le monde en même temps ?
Le Pingouin, déjà.
Le Pingouin.
Ouais.
Catwoman.
Ouais, qui d'autre ?
C'est quoi la question, déjà ?
Quels autres grands méchants ont eu le droit ?
On est d'accord qu'on compte la série des années 60 qui est passée au cinéma.
Oui, le film, le cinéma. Cinéma.
Bah, le Sphinx.
Riddler.
Double Face, ouais, tu l'as dit. Il en manque un.
Mister Freeze.
Non.
Non, parce qu'il n'était pas dans le film.
Non. Ouais, c'est vrai. Il n'y a qu'une fois, Mr. Freeze.
Il n'est pas dans celui des années 60.
Il y en a un qui a, encore un que vous n'avez pas dit, qui a été deux fois.
DSK.
DSK, c'était lui.
L'épouvantable.
Ah, Bane. Bane, mais oui. Oui, Bane dans Batman et Robin. Horrible film. Voilà, bravo à tous. Fini de jouer, on continue. On va causer d'une perspective assez vertigineuse. Il y a quelques jours, tout début novembre, le monde du divertissement a tremblé lorsqu'a fuité l'info selon laquelle Disney était sur le pied de guerre pour tenter de racheter une partie des activités de la 21st Century Fox pour la télévision et le cinéma. Objectif, outre rapatrier les licences Marvel restées dans la nature comme X-Men ou les Fantastic Four, mettre sur pied un géant du streaming au catalogue et à l'infrastructure suffisamment développée pour mettre Netflix hors jeu. Le fait que ces plans soient rendus publics ont un peu refroidi les ambitions, visiblement. Mais la presse américaine continue de se faire l'écho de rumeurs, de discussions qui en sous-main se poursuivraient, etc. La porte ne serait pas totalement refermée. Est-ce que l'ogre Disney va finir par manger tout le monde? Qu'est-ce que vous en pensez, David? Regarde-moi, David.
Moi, qu'est-ce que j'en pense?
Ouais,
du bien, j'espère. Non, l'ogre Disney, moi, ça me fait un petit peu peur, parce qu'en plus, ces dernières semaines, on a eu aussi l'annonce de une nouvelle trilogie Star Wars, d'une série, etc. Enfin, le truc n'a plus de fin.
Mais tu t'y attendais, ça.
Et oui, je m'y attendais, parce que la logique, en fait...
Ils ont pas payé 4 milliards
Exactement,
pour avoir des sandwichs.
Faut amortir l'investissement. En revanche, la logique, on va dire, le business plan général appliqué par Disney au cinéma, moi, me pose problème et globalement me gonfle. Hein, donc j'aimerais qu'il reste des studios puissants, autonomes, capables de faire des trucs un petit peu pour les adultes et un petit peu satisfaisants pour le spectateur. Et j'ai l'impression que le moule que Disney est en train de se forger ne correspond plus à ça. Après, je comprends les intérêts économiques et je vois bien Disney lorgner beaucoup, notamment sur la licence Avatar. On avait parlé dans la dernière émission, mais on en discutait juste avant. Et il y a apparemment à Disney World... Une attraction Avatar qui a ouvert récemment. Et on imagine toutes les déclinaisons possibles si, en plus, le succès du prochain opus est au niveau du premier. Voilà, moi je pense que bon, après c'est des choses qui nous dépassent un peu, c'est du très 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 gros business.
High business.
Mais voilà, il faut espérer que des studios soient quand même capables de résister et de résister en proposant autre chose, en fait. Et là, la responsabilité du spectateur n'est pas nulle. Il faut choisir les films qu'on va voir, et donc je ne vais pas voir les films adaptés des joueurs du PSG, comme on parlait tout à l'heure, même si c'est pas Disney.
À l'instant, même si c'est pas Disney, c'est pas très loin. Anaïs, ça t'inspire quoi, cette histoire de la Fox peut potentiellement aspirer en partie, en tout cas, par Disney?
Pareil que David, je trouve ça un peu terrifiant. Après, je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner. Déjà, on ne sait pas trop exactement...
Jusqu'où ça ira.
Voilà. À quel point ils vont engloutir tout ce que la Fox fait. Mais en tout cas, par exemple, moi, je suis curieuse de voir ce qu'ils vont faire avec les séries. Ils ont envie de taper, je pense, dans ce saladier-là, on va dire, tout le monde pioche un peu dedans en ce moment. Et vu que Fox, c'est FX ou FX, il y a plein de séries très très bien qui ne sont pas forcément très Disney, comme American Horror Story, par exemple. Mais je suis curieuse de voir ce que ça donnerait si...
Qui sont distribuées par ailleurs sur Netflix, notamment, enfin, quelques-unes d'entre elles. Donc ça va poser encore des histoires de guerre, de droits.
C'est assez difficile à suivre. Mais en tout cas, je pense que, vu les liens de plus en plus fréquents entre cinéma et séries, ces dernières années, je suis assez curieuse de voir ce que ça pourrait donner avec des séries Disney qui ne seraient pas genre des séries Disney Channel, quoi.
C'est vrai que ça nous ferait un peu bizarre de voir American Horror Story chez Disney. Alex,
Là, le mot Netflix vient d'être prononcé, effectivement. Oui. A priori, tout le monde s'accorde pour dire que c'est un peu un mouvement pour contrecarrer la montée en puissance de Netflix.
Et on entend beaucoup ça. Il y a beaucoup d'Amazon. De projets pour contrecarrer Netflix. Il n'y a pas beaucoup de projets qui vont jusqu'au bout pour contrecarrer Netflix pour l'instant. Parce qu'en France aussi, il est censé y avoir un gros groupe de streaming, il y a des histoires avec les Italiens. C'est en France.
France Télévisions, avec le plan qui leur prend en cul, à mon avis, tu vas pouvoir les acheter pour 3 tickets restaurants.
Ne parle pas pas de ce que tu ne connais pas.
Ah, j'ai oublié qu'on travaillait pour le service public à certains. Non, mais plus sérieusement, eux, ils ont les moyens de concurrencer. L'enregistrement, l'émission actuellement, là, en direct, tombe deux jours après, une journée après l'annonce du deal entre Amazon et les héritiers Tolkien pour une nouvelle série monstrueuse,
Seigneur des
Anneaux, qui a été.
On a d'ailleurs des questions là-dessus, on en parlera à la fin de l'émission.
Bon, alors on en parlera à la fin de l'émission, mais juste pour rappeler un ordre de chiffres, on murmure 250 millions de dollars juste pour l'achat des droits.
C'est pas pour écrire un truc, pas pour tourner, juste
les droits. Et donc ce genre d'échelle et d'économie te montre bien que ce qui va maintenant être important, c'est d'avoir des marques, d'avoir des franchises. Disney le sait très bien pour avoir entamé depuis 2012 une politique d'acquisition monstrueuse avec Marvel et Lucasfilm. Et là, Fox, on peut imaginer qu'il y a des choses dedans dans le catalogue à piocher. Il y a les X-Men pour le côté Marvel. Il y a le premier
Star Wars dont les droits appartiennent toujours à Fox.
C'est pas faux.
C'est ce que Stéphane me disait hors antenne.
C'est vrai pour le premier Star Wars de Nouvelle-Espagne. Il y a aussi si on parle de franchise un peu culte dans la pop culture, il y a les Aliens, les Predators qui reviennent d'ailleurs bientôt. Enfin bref, il y a plein de choses dans lesquelles ils pourraient faire leur marché. Moi, j'aimerais bien voir Wolverine se péter la gueule avec un alien, mais ça reste du domaine de
pourquoi ça.
Parce que j'ai un cerveau d'adolescent de 12 ans. Non, mais en vrai, j'aimerais pas du tout voir ça.
Un cerveau d'adolescent de 12 ans des années 90.
C'est ça, exactement. Quand tu faisais des dessins derrière ton cahier avec du blanco.
David, tu voulais dire quelque chose? Tais-toi, Alexandre.
OK, d'accord, je me tais finalement. Je crois que j'ai fini de parler de façon.
Il y a une question à laquelle je pensais dans ce que racontait Alex, c'est que au niveau des licences, c'est-à-dire que si Fox est potentiellement vendeur soit de son entièreté, soit de certaines licences, la question c'est que si c'est pas Disney qui les achète, c'est que c'est potentiellement quelqu'un d'autre.
C'est à vendre, c'est ça que tu veux dire.
Et du coup, en fait, il faut se poser aussi cette question, c'est-à-dire que est-ce qu'il vaut mieux que ce soit Disney qui rachète Fox ou qui rachète certaines licences de Fox ou qui fasse un partenariat avec Fox, parce que c'est apparemment des dernières rumeurs, on se dirige plus vers des partenariats, des deals spécifiques qu'un rachat. Qu'est-ce qui est le plus intéressant? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un méga mastodonte qui domine complètement le marché, ou qu'il y ait quelque chose qui puisse arriver un petit peu à la hauteur de Disney en face?
Moi, ce que je trouve qui est étonnant en fait dans cette logique, c'est que tu parlais de Disney qui a racheté Marvel, qui a racheté Lucasfilm, mais ça c'est des marques en fait. C'est effectivement, il y a Lucasfilm, il y a Indiana Jones, il y a Star Wars, Marvel, il y a tout le roster en fait tous les joueurs de PSG préférés. De David.
Non, ça c'est d'ici.
Ah voilà. Oui, c'est d'ici, pardon.
Mais le truc en fait, c'est.
Non, c'est Marseille.
C'est plus le rugby. Hein,
c'est Lyon.
Mais le truc c'est en fait, c'est que. Le truc, c'est que là, c'est surtout que pour moi, là où c'est un peu sans précédent, c'est que c'est un vrai studio de cinéma qui en fait fait une OPA, enfin pas une OPA en l'occurrence, mais qui essaye de mettre la main sur un autre studio de cinéma. Oui. Et à ma connaissance, en fait. Je me trompe peut-être, il faudrait peut-être revérifier, mais il me semble que c'était pas arrivé depuis la United Artists et la MGM en fait dans les années 80. Et le truc, c'est que du coup, avec le bordel que ça a été, hein, en matière de droits justement. Alors connaissant Disney, effectivement, ils géreront les droits de manière beaucoup plus, business smart, on va dire en tout cas. Donc voilà, et ça m'interpelle parce qu'effectivement, il y a un côté d'englober. On parlait de Marvel parce qu'effectivement, il y a les X-Men qui pourraient revenir chez Marvel. Oui. Ce qui n'est pas forcément
une bonne nouvelle pour les X-Men.
Non, mais en même temps, X-Men, bon, faut être honnête, il y a deux bons films. Hein,
la franchise n'est pas non plus parfaite.
Ouais. Voilà, et quand tu vois la bande-annonce du prochain. T'as encore l'impression qu'ils ne savent pas vraiment où ils vont. Quoi.
Oui, mais il y a des tentatives type Logan ou ce genre de choses qui sont plus intéressantes.
Moi, j'adore Logan, c'est un super film, mais c'est un film qui existe aussi parce que le même réalisateur, avec le même vedette, en l'occurrence, se sont cassés les dents sur le précédent.
Sur Wolverine 2. Immortel, voilà.
Donc, du coup, c'est des trucs en fait, qui sont, à mon avis, littéralement impossibles à faire chez Disney, ce genre de choses, en fait, d'avoir des entre guillemets, des films de cinéastes en fait, qui vont apparaître de temps en temps au milieu. Voilà. Et du coup, ça pose la question sur. Effectivement, je rejoins David là-dessus. J'ai pas envie d'avoir un studio en fait qui a une façon de fonctionner qui en l'occurrence me semble être la même sur sur Star Wars ou sur Marvel et de faire la même chose en fait avec
qui applique une logique industrielle identique parfois.
Il y a plus gros que les trucs FX, il y a les Simpsons. Non, alors c'est pas fait du tout effectivement parce que le truc, mais c'est intéressant d'en parler parce que il y a une espèce de voilà, il y a une espèce de logique où jusqu'ici Sony rachetait Columbia, mais Sony c'était pas un géant du cinéma, c'était c'était de la hi-fi, bref, donc le truc c'est que d'un seul coup on se retrouve avec un studio qui est censé faire du cinéma aux yeux des gens qui va chercher un autre studio qui est censé faire du cinéma et c'est quoi le but exact quoi.
Puis comme il y a même il serait vraiment vendeur et vraiment acheteur des deux côtés, il y a des gros il y aura quand même un peu de minimum de réglementation antitrust et tout qui feront peut-être obstacle en tout cas opposition à l'entièreté du deal quoi. On sait déjà qu'ils vont pas, si ça se faisait ils achèteraient pas les chaînes sportives parce que Disney a déjà des chaînes sportives. Mais,
Fox News c'est qu'ils veulent pas de Fox News, ils ont clairement
Bill O'Reilly
quand même.
Non, mais bon. Non mais c'est marrant.
Ils sont un peu emmerdés par Fox News, c'est vrai. On a une petite question autour de cet univers Disney, Fox, tout ça. Vu le tout, c'est Sublime Tricas qui nous dit, vu tout le fric qui claque pour leurs films et leurs promos, est-ce que Star Wars est-il voué à être rentable un jour, en gros?
Oh, il l'est déjà.
Bah, c'est leur volonté, en tout cas. Hein,
il l'est pas encore, non, Alexandre. Ah, non, pas totalement
rentable. Qu'est-ce que tu veux dire, non? L'achat de la licence.
Je pense que c'est le sens de la question. Je ne suis pas dans son esprit.
Ah, mais je pense que ça va l'être d'ici. Ouais.
Ils ont pas de master plan, apparemment, même s'ils se disent qu'ils en ont un depuis le début, en fait.
On en parlait dans l'émission précédente déjà.
Donc le truc, c'est que. Mais après, c'est Star Wars. C'est-à-dire que chaque film qui sort, même Rogue One, par exemple, qui fait peut-être que la moitié d'épisode 7, mais il fait quand même $1 milliard.
Oui.
Donc, et je vois pas, même si ça a coûté très très cher, Han Solo, je le vois pas, enfin Solo, tout court, pardon, je le vois pas ne pas faire $1 milliard non plus, minimum, même si là, en l'occurrence, apparemment, ils ont vraiment littéralement re-shooté 90% du film. C'est une des dernières rumeurs en date, quoi. Mais donc là, effectivement, tu te poses la question de pourquoi fonctionner comme ça, quoi. Je pense sur, encore une fois, il y a le merchandising,
Jean-Claude Lucas avait justement gardé tous les droits, donc c'était déjà dans le deal Disney quand ils ont acheté les licences et tout. Ils avaient en plus tout ce qui revenait depuis des années à Lucas et qui a fait sa fortune personnelle, à savoir le droit des produits, des jouets, des produits d'Alice.
Des partenariats avec Leclerc, tout ça, enfin, c'est super.
Avec Lego, tu vois, en l'occurrence, ce genre de truc.
C'est une droite pour faire Leclerc, Lego, c'est mon côté breton, tu vois. Avant notre prochain sujet, vous le savez, vous l'avez vu venir, il y a encore un jeu. Vous avez entendu le désespéré d'Anaïs. Ah non, encore un jeu. En plus, c'est encore un quiz. Alors, je cède à la pression populaire initiée par David Honora. Je ne ferai pas de blind test musical, parce qu'il ne veut pas. Mais je vais faire pire. On va faire un quiz sonore dédié à Star Wars, en plus. Pour célébrer la sortie prochaine de l'épisode 8. Qu'on attend avec une espèce de non-excitation assez déprimante, dont on parlera évidemment bientôt dans un ciné.
C'est Carrie Fisher qui siffle de la coke.
Ah, c'est super. Je vais vous passer plusieurs sons. Vous devez me dire à quelle race d'extraterrestres de la saga ces bruits appartiennent. C'est salaud, hein. J'aime bien. Non, c'est pas une blague. Je suis un gros enfoiré. Allez, vas-y, envoie le premier.
Ça, c'est les Jawas.
Ah. Ouais, c'est les Jawas. Bien joué, Stéphane.
Les Jawas, c'est ceux de...
Les Jawas, c'est les ferrailleurs qui vendent des droïdes dans l'épisode 4.
Tu devrais le revoir, hein, c'est un bon film. Hein.
C'est un bon film,
c'est pas mal. Vas-y, on voit le deuxième son.
Les Ewoks. Raté.
Non, ça c'est la bête qui se fait ouvrir le ventre, j'ai oublié le nom.
De la neige.
Dans
la contre-attaque.
Ouais. Ça s'appelle
un dromadaire.
Un banta.
Non,
c'est pas un banta.
Non, un banta, c'est dans l'épisode 4 sur Tatooine, les bantas.
Ah,
c'est un tonton.
Tonton.
Ouais, c'est un tonton. Allez, troisième son.
Ça c'est un Ewok.
Ouais, David.
Oompa Loompa.
Ouais, Daniel.
C'est la seule race de Star Wars que
tu connais.
Je connais les chats.
T'as fait un point. Les chats et les Ewoks.
Et les Ewoks.
C'est pas mal. C'est déjà pas mal. Écoute.
Ah, c'est un perroquet.
Ça c'est John Williams.
Non.
Ah là, c'est pas le blind test, merde.
Vous avez pas vu la bande-annonce de l'épisode 8, du coup?
Ah, c'est la petite...
petite crotte, là, comment ça s'appelle, là?
Le Pog.
Non,
un Porg.
Balance ton Porg.
Putain, qu'est-ce qu'ils sont cons.
Vas-y, rebalance ton Porg.
Vas-y, renvoie le 4 pour voir. Ouais, il fait brrr, brrr, comme ça.
C'est pas mal comme bruit.
C'est sympa comme bruit. J'en ai un dernier.
Le pire, c'est que tu retiens que ça. Tu regardes la bande-annonce, il y a plein de trucs, elle va tomber du côté obscur, machin, etc., etc. Mais tu retiens que ce plan. Ouais. Tu peux pas. Ce plan te bouffe, tu vois, c'est le trou noir.
Inspiré par le porg. Envoie le cinquième son, Jules.
C'est Chewbacca, non ?
Non.
C'est pas un Wookiee.
C'est pas un Wookiee. Vous voulez le réécouter ?
Oui. Ouais.
Non.
Tu sais, on dirait les vieux trucs de teuf, de techno, quoi. Les trucs de Manu Malin là, qui commencent là, pour faire rameuter les gens dans les enceintes.
De Manu Malin.
Et en fait, c'est Louis Siquet.
Il a réussi à parler.
Remets-le.
C'est Louis Siquet.
C'est Jean-Marie Le Pen.
Non, c'est un homme des sables, mais vous êtes des grosses buses. Voilà, 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 voilà. Allez, on continue.
Attends, attends, parce qu'un homme des sables, c'est quelle race d'extraterrestre, du coup?
C'est un Sandman, il s'appelle ça. Ah, oui. Star Wars, c'est les Sandman.
C'est humanoïde.
Qui fait...
C'est humanoïde.
C'est vaguement humanoïde, ouais. Ouais, ouais. D'accord. Je te prêterai les DVD, si tu veux, David.
Les gens n'ont pas de questions sur tes...
Non, sur mes jeux, non, je prends pas les questions sur mes jeux, parce que c'est un peu insultant. La cinéphilie mondiale est-elle malade de sa propension à laisser les agrégateurs de critiques faire la pluie et le beau temps? Autrement dit, devons-nous continuer à accorder de l'importance au score que font les films sur Rotten Tomatoes et consorts? Non, a répondu pas n'importe qui, puisqu'il s'agit de Martin Scorsese quand même. Dans une tribune dans le Hollywood Reporter, le sémillant Martin dit qu'il en a marre de ces sites qui n'ont rien à voir avec la vraie critique et qui, selon lui, étouffent la création et la prise de risque dans l'œuf. Il prend notamment l'exemple de Mother de Darren Aronofsky, démonté par la critique, il est vrai. Nous les premiers, hein, désolé Martin. Alors que selon lui, c'était Anaïs, c'était sa faute. Selon lui, il méritait les louanges, ne serait-ce que par la radicalité de sa proposition de cinéma. Alors, vous en pensez quoi? Vous êtes d'accord avec tonton Martin, Alexandre?
Martin, non, je n'encore pas du tout le pif, je vais gratter la barbe. Et je pense que Martin, quand tu lis sa tribune dans le Hollywood Reporter, tu as un peu l'impression au départ que c'est le cliché absolu du metteur en scène froissé par d'éventuelles mauvaises critiques. Il faut rappeler que son dernier film, c'est Silence, qui n'a pas non plus été unanimement salué, qui n'a pas fait un carton absolu box office. Donc tu as cette tentation là de se dire ah voilà, c'est le syndrome du gamin qui en a mis une tape sur la voilà, qui est vexé en fait pratiquement. Mais à bien y réfléchir, moi-même, alors que j'ai pourtant, et d'ailleurs on avait fait une émission avec Anaïs, j'ai pas du tout aimé Mother d'Aronofsky, je continue encore à ne pas l'aimer, mais en même temps ça reste un des souvenirs de cinéma, un des chocs sensoriels les plus marquants de ces derniers mois. Et ça ne veut pas dire que quand je le reverrai dans un an ou 10 ans, je serai à fond sur le film. Mais en tout cas, bon, le fait est que quand il a été marqué du sceau de l'infamie, là, pour le coup, dans son texte, Scorsese, il parle à la fois des agrégateurs de critiques type Rotten Tomatoes, et il parle aussi d'un truc qu'on a assez peu en France, si on a un truc similaire qui s'appelle l'observatoire, je crois, de la satisfaction.
Le petit bonhomme de Télérama.
Voilà, je parle vraiment de la satisfaction.
Un indicateur professionnel.
Voilà, un indicateur professionnel, le truc des spectateurs. Tu sors de la salle et t'as vraiment.
Qui est publié par Écran Total.
C'est ça. Et lui, donc, c'est vrai que ça s'appelle le Cinéma Score aux États-Unis, c'est le truc dont parle Scorsese, et Mother a eu la note la plus mauvaise, F. Voilà. Et effectivement, quand tu dis que ce film-là a une plus mauvaise note qu'un n'importe quel des Transformers de Michael Bay, tu dis bon.
j'ai pas vu Mozart.
Non, mais bon, tu te dis que ça, quelque part.
Il a vu tous les Transformers.
Ça veut tout dire. Bon, bref, tu vois, il y a une différence. Donc, pour revenir à ça, je pense que Scorsese, au-delà du côté un peu mec vexé, pointe le doigt sur quelque chose d'important, parce que Rotten Tomatoes, c'est vraiment devenu un empire. Et on parlait tout à l'heure de l'hypocrisie hollywoodienne pour un sujet autrement plus grave et plus large que ça. Mais il y a aussi une hypocrisie hollywoodienne avec ce truc-là de Rotten Tomatoes, c'est qu'un réalisateur dont le score est dithyrambique sur Rotten Tomatoes, au hasard récemment Edgar Wright avec Baby Driver ou Guillermo del Toro avec The Shape of Water, oui. Si le truc frôle les 100% voire l'atteint quand il n'y a pas beaucoup de critiques au début, il va s'empresser de partager le score.
Tu vois, par exemple, le problème c'est que tu parles de la forme de l'eau ou de Baby Driver qui, bon, Baby Driver on l'a vu, la forme de l'eau moi j'ai pas encore vu, mais potentiellement on peut partir du principe que ça peut être vraiment un très bon film.
Oui, bien sûr.
Y a un réalisateur derrière. Voilà. Quand John Wick, quand c'est sorti, quand il y a eu les 8 premières critiques post, je sais plus quel festival où ils l'ont montré, c'était 100%. Et d'un seul coup, en fait, tu te dis, si tu te bases sur ce moment spécifique, c'est le film est mieux que Citizen Kane et je sais pas quoi. Donc ça veut rien dire.
Et Fiscal.
Je rebondis du coup un peu sur des trucs dont on parlait en hors antenne avec Rafik qui est pas là.
Avec Rafik Djoumi, avec qui on faisait l'émission tout à l'heure.
Rendre à César ce qui appartient à César, quoi. Qui nous disait c'est que le gros souci, en fait, aussi, surtout de Rotten Tomatoes, c'est que c'est complètement biaisé. C'est-à-dire
là, c'est révisionniste, voilà, il a dit.
On est dans une espèce de logique où chaque critique est revue et reprise. Et du coup, en fait, les critiques des films d'il y a 20 ans, en fait, sont, remises à jour. Et du coup, en fait, n'illustrent plus la pensée de la sortie. Voilà, c'est ça, de l'époque, quoi. Donc, du coup, et l'exemple graphique, c'était Incassable. Qui est un film qui s'est fait déchirer à l'époque par la critique, qui attendait en gros la suite de Sixième Sens, hein, plus ou moins, quoi, et qui aujourd'hui a un score relativement tout à fait correct, parce que justement le film a été revu à la hausse avec le temps, et que l'agrégateur reprend ça en ligne de compte. Du coup, pour nous, en fait, qui baignons dans ce truc, l'intérêt historique effectivement est un peu annulé, quoi. Maintenant moi j'apporte ma petite pensée sur ce truc là, c'est que ces scores là impactent vraiment la fabrication des films. Il y a dans d'autres milieux, j'en parlais en antenne avec Thomas, comme le Metacritic par exemple, en fait, qui surtout se concentre sur les jeux vidéo, mais il y a aussi les films et les albums de musique, etc., etc., mais c'est surtout les jeux vidéo. Ça a un énorme impact sur l'industrie du jeu vidéo, parce que si ton jeu vidéo en fait n'est pas noté 90+, bah, ton studio ne touche pas son bonus promis par le distributeur. Et du coup, en fait, je sais pas si c'est beaucoup plus objectif en fait comme manière de critiquer le jeu vidéo que le que le cinéma, mais dans le jeu vidéo t'as pas de score comme 8% sur Rotten Tomatoes pour un Adam Sandler ou je sais pas quoi pour un jeu vidéo. C'est extraordinairement rare, en fait, voire même ça n'arrive pas. Je veux dire, les pires scores dans le jeu vidéo c'est 60%, 70%, quoi. Et du coup je pense que ça impacte, ça veut pas dire grand chose en fait de le noter sur 100 à ce moment là, quoi, mais ça a un véritable impact.
Et puis, surtout,
ce qui est là n'est pas forcément le cas, donc je sais pas je sais pas si Scorsese, enfin, après je pense que lui il parle de quelque chose qui est beaucoup plus général, c'est-à-dire qu'il utilise ce truc pour dire on a de plus en plus de contenu aujourd'hui, on va se pointer au cinéma, on est dans les multiplexes, il y a 15 films à choisir et tu vas choisir à la tête du client, il y a Robert Downey Jr, alors j'y vais, hop, et en gros c'est ça le truc. Donc du coup peut-être que ce genre d'agrégateur permette aux gens
de faire le tri.
Maintenant, est-ce que c'est vraiment indicateur du bouche à oreille? Je sais pas, quoi. Et je pense malgré tout que je parle pas d'un bon film, un film que les gens ont envie de voir. J'ai tendance à penser qu'au bout d'un moment ils vont le voir, en fait, vraiment. C'est-à-dire qu'il y a un vrai truc qui se crée dans le bouche à oreille qui continue à être maintenu, quoi.
Et parfois un film qui a une très mauvaise note sur Rotten Tomatoes va même inciter les gens à aller le voir. Oui, enfin, moi je sais que Mother, plus j'en disais du mal, plus j'incitais les gens à aller le voir, quoi, parce que ça atteint des proportions tellement énormes que ça rendait les gens curieux.
Mais est-ce que ça s'est vérifié? Est-ce que c'est des gens qui t'ont dit « Ah, tu me donnes envie de le voir » et ils y vont pas?
pas tous, non. Mais en tout cas, je pense que pour le cas de Mother et peut-être de manière plus générale, j'ai l'impression qu'ils se trompent un peu de coupable, parce que en fait, j'ai l'impression que c'est aussi un problème de marketing, quoi. Mother, il y a plein de gens qui ont été déçus parce que ça a été marketé comme un film d'horreur, alors que c'en est pas un. Et donc quand tu t'attends à des jumpscares toutes les 5 minutes, un truc un peu blockbuster parce qu'il y a Jennifer Lawrence dedans, etc., et que tu vois Mother, la déception est d'autant plus grande. Et je pense que c'est ça qui a contribué en tout cas à la très mauvaise note des spectateurs en sortie de salle, les tout premiers, quoi, parce qu'ils s'attendaient sans doute pas à ça. Et je pense que de manière générale, il y a un problème avec les films qui sont mal marketés. Brooklyn, il y a quelques années, a eu le même problème, quoi. Les gens l'ont marketé comme une histoire d'amour, alors qu'en fait, ça parle pas vraiment de ça. Et je pense que ça rend l'expérience du spectateur un peu plus compliquée, parce que justement, il se crée des attentes qui sont ensuite complètement déçues, quoi.
L'un des trucs qu'on a appris aujourd'hui, justement, en préparant cette émission, c'est que le score de Justice League, donc qui est pas encore sorti, il va être dévoilé jeudi soir le film sort vendredi.
Ça, c'est fou, ouais.
J'ai vu passer un tweet en France, il n'y a pas un embargo à 8h50 mercredi matin,
10 minutes avant
et le truc c'est que personnes l'ont vu, apparemment il y a une avant-première ce soir, mais voilà. Et le truc c'est que en fait je pense que c'est là pour le coup directement lié au marketing, c'est-à-dire que c'est vraiment le studio qui, je pense, a demandé à ce que
impose ça.
Et en même temps, on vous annonce le reveal. C'est-à-dire, on vous dit à telle heure, à tel machin, vous allez pouvoir avoir la note, même si les critiques sont déjà là, en fait.
Ouais. Mais bon, c'est donné plus d'importance, je pense. Enfin, je pense vraiment pas que Mother a fait un flop à cause de Rotten Tomatoes, quoi. Je pense qu'il y avait plein d'autres éléments qui rentraient en jeu.
Est-ce que Discord en fait, c'est pas tant que ça.
Je voudrais expliquer un petit peu ça. C'est à mon avis, le problème que pointe Scorsese, c'est la logique performative qui s'est appliquée au cinéma depuis une vingtaine d'années.
Qui est inhibante pour le réalisateur.
Et qui, en fait, la cohérence et le lien entre le score Rotten Tomatoes ou les autres scores qu'on a évoqués et le score au box-office et aussi la logique de raccourcir de plus en plus le temps de décision de la réussite business, c'est-à-dire que maintenant il y a vraiment plus que le week-end d'ouverture qui va compter, font que c'est très adapté aux films de studio et aux films Disney dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que ou aux films à licence type Justice League, etc. Donc effectivement, pour un film avec autant d'enjeux marketing que Justice League, l'indicateur Rotten Tomatoes est particulièrement important et intégré complètement dans le plan marketing du studio, parce que ça va faire varier de quelques points le premier week-end, et le score du premier week-end va ensuite influencer de manière globale la carrière du film. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que se créent les modèles économiques.
Là, tu parles sur les gros films.
Je parle sur les très gros films avec d'énormes budgets, d'énormes.
Ouais, mais en l'occurrence, Batman v Superman, c'est un film qui s'est fait défoncer sur Rotten Tomatoes et qui, a fait un énorme premier week-end.
Qui a fait un énorme premier week-end, mais sans doute inférieur à ce qu'il aurait pu faire. Et comme c'est sur des sommes énormes, c'est-à-dire qu'à quelques pourcentages près, ça représente des millions de dollars. Et le problème, c'est que des films, entre guillemets, adultes, qu'on aime ou pas, Mover, se retrouvent pris dans ce système qui n'est pas du tout adapté. C'est-à-dire que, qu'on aime ou pas Mover, je pense qu'il faut passer plus que deux secondes pour voir qu'est-ce que c'est comme film, de quoi ça parle, qu'est-ce que ça essaye formellement, en quoi ça échoue, en quoi ça réussit. Et se retrouver pris dans un système de notes sur lequel moi je suis fondateur de Vodcaster, j'ai particulièrement réfléchi à ces questions de comment noter les films, de comment travailler sur la vision du public.
Vous avez tout niqué.
Vous avez foutu la merde.
Et on se posait la question de. On voulait. Je suis le fondateur, mais je m'en occupe plus. Télérama après le truc. Bon, bref. On se posait la question à un moment d'être le. Est-ce que c'est pertinent d'essayer d'être le Rotten Tomatoes français? Et le truc, c'est que effectivement, il y a quand même un effet qui est de réduire à juste un indicateur. La réception critique qui ensuite va devenir un chiffre qui va rentrer dans le fichier Excel du studio qui lui calcule son business plan et on va pouvoir être dans une logique pour sortir un énorme film à licence de se dire là il me faut un réalisateur qui va me faire au moins 60% sur Rotten Tomatoes parce que là on est dans les clous et je pense qu'il y a voilà ce genre de logique qui effectivement je comprends pourquoi il me sert
dit,
un peu
cela dit moi si je me trompe mais sur votre caster il n'y avait que les utilisateurs qui votaient et qui mettaient eux-mêmes leurs notes.
C'est vrai qu'on n'a pas du tout expliqué le principe de Rotten Tomatoes, c'est de faire une revue de presse de toutes les critiques qui sont publiées dans la presse aux États-Unis.
Ça veut dire autant le Milwaukee Star que le New York Times
avec quand même
qui sont
un système
au même niveau.
Pas exactement au même niveau. Il y a quand même un système de pondération qui tarifie entre guillemets un certain nombre de critiques labellisées qui comptent plus dans l'algorithme. Et du coup, donc, ce truc fait que au tout début, pendant les premières semaines, l'indicateur est très peu fiable. Donc, c'est l'exemple que donnait Stéphane avec John Wick, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un certain nombre de critiques qui se soient exprimées. Et en fait, donc, l'équipe de Rotten Tomatoes lit les critiques, c'est-à-dire que toutes les critiques n'ont pas forcément mis une note. Et à partir de ce qui est dit dans le texte, met un score qui ensuite est agrégé avec tous les scores de tous les textes critiques publiés aux États-Unis pour ensuite donner un pourcentage.
qui est voilà le score critique du film.
Donc il y a un truc du film, ça, ouais, parce voilà. qu'il parle de tomates, donc c'est la fraîcheur,
ouais,
et plus t'es 100%, plus tu es près de 100%,
et
plus
effectivement t'es bon. Utilisé sur des jaquettes de DVD, de Blu-ray, etc.
Exactement.
Et évidemment, tout est dans la question de l'algorithme en question. C'est comme en France où il y a nous l'exemple le plus près de nous et le plus qu'on connaît le mieux, c'est Allociné, qui depuis des années fait présente sur chaque fiche de film à la fois la moyenne des notes spectateurs qui sont données directement et la noyée de presse. Et la moyenne de presse, autant quand t'as un téléstar qui donne des notes sur 5 ou je sais pas combien d'étoiles, c'est facile, t'as juste à faire voilà, une règle de 3. Mais quand c'est un truc genre, je sais pas moi, Libé par exemple.
au hasard déjà, bravo savoir,
déjà,
bon,
Libé ne met pas de notes. Oui, voilà, Libé ne met pas de notes. Et puis déjà en plus, il faut savoir comprendre les textes des collègues, savoir s'ils ont aimé ou s'ils ont pas aimé.
Ça balance.
Non, je dis juste qu'une critique, c'est pas j'aime ou j'aime pas. Et moi, quand je lis des critiques de certains collègues, des fois, j'avoue, je ne sais pas forcément. Si c'est un enthousiasme modéré ou si c'est voilà et en vrai
c'est quelqu'un qui a pris des produits à l'écrire.
Non mais je veux dire que des fois c'est pas juste allez-y ou restez chez vous, il y a vraiment un juste milieu et la notification c'est la négation de ça en fait, donc c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà pour l'exemple d'Allociné, c'est une version française mais qui correspond à peu près au dilemme qui se propose avec Rotten Tomatoes, c'est que toutes les critiques n'ont pas vocation à être transformées comme ça à réduite, c'est comme les albums sur Pitchfork qui sont notés 8.2. Ah, c'est moins bien que le truc 8.3 là dans Dangerous Scène. Ah bon, ça n'a aucun sens.
Et puis d'ailleurs, l'exercice critique, on en parle avec nos ciné, ne se limite pas à la prescription. C'est-à-dire que le rôle d'un critique, c'est pas juste de dire allez voir un film ou n'allez pas le voir. Ça peut aussi être, quand les films sont plus élaborés, plus complexes, d'accompagner le spectateur qui a vu le film et de lui faire découvrir des choses.
Après, potentiellement, les textes existent. Ils existent. Quoi, ils sont là, tu peux les lire, tu peux y accéder.
Tu peux faire le pas supplémentaire.
En plus, ils sont tous sur Internet et tout. Quoi.
Là, c'est vrai que ça peut avoir une vertu, je finis avec ça, ça peut avoir une vertu comme les fiches Wikipédia, où des fois la fiche en elle-même ne va pas être d'un intérêt folle, mais elle va avoir un intérêt bibliographique, avec les notes. Là, c'est pareil, Rotten Tomatoes, si vraiment tu as envie de rechercher, de comprendre la réception à un moment donné d'un film, à plusieurs moments donnés même peut-être, là, pour le coup, c'est vrai que ça a une vertu tout simplement en termes de recherche web. Ça t'évite de googler review.
La réserve que donnait Stéphane, qui a ce révisionnisme critique.
Mais dans les deux sens, enfin, je veux dire, encore une fois, là, John Wick, il est plus à 100%, mais bon, ceci dit, il a tellement bien démarré, je pense qu'il a une note.
Est-ce qu'il est à 100% dans ton cœur?
Alors, malheureusement non, quoi.
Non, mais en tout cas, si vous voulez savoir ce que le Poughkeepsie Evening Standard avait pensé à l'époque de John Wick, vous pouvez aller sur Rotten Tomatoes. Sur le même sujet, plus ou moins, on nous interroge, c'est nos amis qui nous suivent sur Internet, sur cette tendance de citer des comptes Twitter de spectateurs sur l'affiche au lieu des journalistes ou des critiques. C'est vrai que ça participe quelque part un petit peu de la même logique. C'est légèrement différent, mais c'est un peu dans la même tendance, c'est aussi une approche
marketing, c'est-à-dire que c'est une manière de dire le critique, le vieux schnock là, avec sa pipe et son petit monocle là, il a pas aimé le film que t'as aimé, tu vois, alors que le petit jeune qui a un compte Instagram, qui a tweeté son truc machin, etc., il a kiffé comme toi, il est comme toi, donc si tu veux, voilà, et donc ils vont chercher des comptes Twitter qui collent avec l'univers du film et les spectateurs qu'ils essayent d'avoir, quoi. Maintenant, faut vraiment avoir 12 ans pour être dupe du truc et de se dire putain,
Kiki du 32 qui a trouvé ça super.
@kiki du 32 qui a trouvé ça mortel, donc j'y vais, quoi.
C'est ton compte Twitter, Anaïs, tu me regardes.
Franchement, je le vis mal. Mais après, le problème de Twitter, c'est un problème plus large parce que, par exemple, au Festival de Cannes, il y a un gros débat pour savoir si on autorise les journalistes à tweeter à la sortie des projections ou pas, parce qu'encore une fois, il y a certains films qui méritent d'être digérés un petit peu. On devrait dormir un peu dessus avant de balancer un avis en 140 ou maintenant en 280 signes.
Surtout pas dormir pendant la projo aussi.
Dormir dessus pendant le film. Mais donc, c'est un problème plus large, je pense, qui rejoint ce qu'on disait sur Rotten Tomatoes, de la réduction de la pensée, en fait. Et il y a certains films qui sont faits pour ça, comme disait David, et il y en a d'autres, comme Mother, qu'on l'ait aimé ou pas, qui peuvent pas vraiment être réduits à 140 signes. Et ça, effectivement, c'est un problème avec les tweets, surtout à la sortie de Projo, où on a un avis qui pourrait évidemment changer dans les deux prochaines heures ou les deux prochaines semaines.
Oui, le temps de digérer le film.
Il faut peut-être aussi spécifier que dans certains cas, en fait, surtout sur ce genre de gros films, en fait, où il y a des embargos, la critique est sous embargo, mais pas forcément le tweet.
Ouais, exactement. Donc, ouais. Voilà, bah, c'est souvent le cas. Ouais. Voilà. Vous pouvez tweeter, mais pas faire une critique.
Du coup, il y a vraiment une logique de récupération,
de digestion marketing derrière.
Voilà, de digestion marketing derrière. Quoi.
Ouais.
Donc,
on s'approche de la fin de notre émission et le calvaire n'est pas totalement terminé parce qu'il reste encore un jeu. Hein. Je le dis avec beaucoup de gourmandise.
Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé.
Parce que vous savez, celui-là, c'est mon préféré, c'est l'instant VF, un extrait d'un film dans sa magnifique version doublée. Voilà, la palme à celui qui trouve. Oui, qu'est-ce qu'il y a,
Stéphane? J'espère que vous avez mis des films qui ont un vrai doublage, quoi, pas des trucs.
Ah non, non, je mets des trucs. 2014, quoi. Ah non, je mets des trucs récents, parce que pour que les doublages soient atroces. Ah non, sinon, c'est pas drôle. Ça, c'est pas drôle.
Allez, il y a des gens qui travaillent.
Voilà, on y va.
Tu t'appelles Buck. C'est ça. Ça rime avec fuck.
Kill Bill. Kill Bill, volume 1.
J'ai fait plus facile cette fois-ci.
Bien joué.
Ouais, j'ai fait plus facile que la dernière fois où c'était Pacific Rim et où vous aviez pas trouvé.
Ouais, parce qu'on regarde en VO, mon cochon.
Là, moi aussi, voilà. Kill Bill, je la regarde en VO. Si tu crois,
Non, mais là, c'est Buck.
Oui, j'ai pris une scène un peu plus simple. J'allais pas prendre un truc où elle va acheter des pâtes. Voilà, merci d'avoir joué Barreau. Bravo, Alexandre. Ah oui, c'est tout, mais avec un excellent extrait. Ouais. Allez, on passe à la suite. La parole aux internautes. Il est bien celui-là. Voilà, on a plein de questions sur différents sujets. Alors déjà, on va saluer notre ami Clint Eastwood. Je suppose que c'est un pseudonyme qui nous suit depuis son travail.
C'est son vrai nom.
C'est lui, Clint Eastwood, qui nous suit depuis son travail puisqu'il n'a pas de connexion internet à la maison. Donc salut Clint. Non, c'est Clint. Pas Clint ni Clint. Clint. Qui nous demande d'ailleurs et qui lui avait trouvé l'homme des sables tout à l'heure sur le quiz. Donc voilà, il y en a qui.
Bravo Clint.
Voilà, il est meilleur que vous, Clint. Clitis qui vous demande un avis sur Spawn, produit par Blumhouse, réalisé par son créateur Todd McFarlane, dont ce sera la première réalisation. Est-ce que vous avez un avis là-dessus, des attentes particulières, autre chose?
Ça fait 20 ans que le mec il veut faire la suite, enfin pas la suite, mais en l'occurrence ça fait 20 ans qu'il dit qu'il va faire Spawn, quoi.
Ça peut pas être pire que le film, de toute façon. Enfin, que le précédent.
C'est compliqué quand même de faire.
Marque AZ de DP ou DP,
je sais plus.
Après, moi j'ai tendance à. Enfin, je veux dire, même des mecs de talent en fait qui viennent d'un autre milieu, j'ai tendance à pas forcément penser qu'ils soient les meilleures personnes pour adapter leur matériau. C'est-à-dire que. Même à une époque, c'était plus le cas, mais à une époque, on parlait d'Hideo Kojima pour adapter Metal Gear Solid. Ça me faisait un peu peur parce que c'est quand même deux fonctionnements différents. En fait, il y a deux logiques
mêmes,
et puis deux méthodologies, quoi. Tout simplement.
Frank Miller avec Sin City 2, qui est quand même une bouse innommable.
Sin City, tout court.
Oui, certes. Voilà. Et à propos de Spawn, mais je pense que Kittis est déjà bien au courant parce que ça a l'air d'être quelqu'un à qui on ne l'a fait pas. on peut quand même conseiller la série animée HBO Ultra Gore.
Tout à fait, des années 90.
Des années 90, extrêmement recommandable. Et qui,
Il connaît, c'est sûr.
Mais il connaît forcément, mais les auditeurs, les auditrices, toujours un petit conseil au passage.
D'accord, très bien. C'est ça, c'est Alex Servo. Alex Servo que vous pouvez retrouver sur F de Souche tous les jours, de 10h à 14h. Captain Marv nous demande notre regard sur le projet Ready Player One de Spielberg, alors que le livre pourrait, dit-il, clairement se placer, selon certains, dans la culture doudou que vous, alors vous c'est nos ciné, critiquez régulièrement.
Il parle aussi, je crois, j'ai vu sa question de la partie VR du film, mais dont on sait
rien. On m'a pas transmis la suite de cette question.
Moi, je te le dis.
Qu'est-ce que vous foutez en régie, là?
Moi, j'ai pas lu le livre. Maintenant, peut-être que ça s'inscrit là-dedans, effectivement. Quoi. Maintenant, je pense que, connaissant le travail de Spielberg, et notamment le fonctionnement hyper symbolique, en fait, de son cinéma, j'ai du mal à croire, en fait, que ça va se borner à être ça. C'est-à-dire qu'il y a... Il y a l'avalanche de référence à la Stranger Things et puis il y a Spielberg, quoi. Donc c'est-à-dire qu'on est quand même dans
Il y a le mauvais Spielberg, quoi.
Non mais voilà.
Le bon Spielberg
Spielberg, quoi. Moi je pense qu'il va y avoir une vraie, c'est-à-dire qu'il y a le Spielberg producteur, par contre. C'est-à-dire que oui, là tu peux effectivement éventuellement te poser la question sur les Transformers ou ce genre de choses, etc., etc. Mais à côté de ça, quand tu réalises...
Deux fois qu'on parle des Transformers, quand même.
Mais parce que c'est l'alpha et l'oméga du cinéma de ces dernières années, Thomas Rozek. Voilà. Mais il y a le Spielberg cinéaste, en fait, qui se pose clairement des questions sur son époque, sur les médiums, sur le médium qu'il utilise, etc., etc. Donc... moi, quand je vois cette bande-annonce-là, je vois pas automatiquement. Enfin, j'arrive à lire derrière les images, quoi. Puis, en connaissant sa carrière, j'entends.
Un doudou bien filmé, c'est déjà ça.
C'est un joli doudou. Ouais. C'est mon doudou à moi que j'ai.
Il faut voir.
Très bien. On en a un peu parlé tout à l'heure. Je crois que c'est Alexandre qui en a parlé. Question de Samurai Jack qui nous demande ce qu'on pense de ce projet de série donc autour du Seigneur des Anneaux chez Amazon. On l'a dit, 250 millions de dollars pour l'acquisition des droits auprès de la famille Tolkien. Des attentes particulières, Anaïs, toi tu...
Pas d'attente particulière. Non, enfin, je pense que effectivement, il y a.
C'est pas ton truc, les Hobbits.
Si, mais je pense que en fait, je suis curieuse de voir ce que ça va donner post Game of Thrones. Enfin, il y a clairement une tendance.
En tout cas, c'est ce que Jeff Bezos, apparemment, le patron d'Amazon, a dit à ses équipes.
Voilà.
Il voulait son Game of Thrones, quoi. Donc,
voilà,
il était carrément cherché à la source, quoi.
Voilà. Donc, je suis curieuse de voir si effectivement, ça va donner le même résultat, sachant que Game of Thrones est un peu en train de baisser dans l'estime de beaucoup de fans de la première heure. Donc, ce serait dommage si pour une autre série de livre qui est assez respecté, que ça se passait mal aussi, mais je sais pas. Non, je suis curieuse de voir, j'ai pas d'attente particulière, mais pourquoi pas.
Mais peut-on passer après,
que l'attente, ouais, c'est
après
ça, la
Peter
question.
Jackson quand même.
C'est ouais, la vraie question, c'est
enfin,
ça,
j'ai envie
c'est...
de dire, est-ce que tu. Qui déjà va le faire? Parce que en fait, en gros, t'as David Benioff derrière Game of Thrones, c'est quand même pas n'importe qui, donc voilà, il y a quand même quelqu'un de talent. Là, en l'occurrence, qui est le showrunner, qui va, on ne sait pas.
Donc, René. René, il s'appelle.
Voilà. Donc, à partir de là,
ça
va clairement très difficile de passer après Peter Jackson. Même moi, si j'aime beaucoup Game of Thrones, je préfère quand même le cinéma.
Donc dans les salles de cinéma.
Ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà. Maintenant, Game of Thrones, ça se, si c'est leur référent. J'ai l'impression que c'est un référent de succès, qualitativement parlant. Si c'est leur référent absolu en fait vis-à-vis du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, si on fait une comparaison, bah, je pense qu'ils vont se planter. Parce que l'idée, c'est d'essayer de faire mieux que le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, si tant est que ce soit possible. Donc, mais apparemment, c'est pas leur objectif.
Donc, je ne sais pas.
C'est très compliqué de voilà, à partir du moment où on ne sait pas qui est impliqué à part Amazon. Tu vois,
non, pour l'instant, on est vraiment c'est très embryonnaire pour l'instant.
Pour moi, Amazon, il me livre mes DVD, quoi.
C'est des projets qui sont économiques avant d'être artistiques, quoi. Quand on se dit voilà, il faut que ça marche aussi bien que Game of Thrones, et puis donc on va acheter
c'est pas un curseur d'ambition, les antécédents judiciaires
de tout le monde,
de tous les mecs
compliqué,
tous, je rappelle qu'ils sont au moins 9 dans la communauté de l'anneau, déjà ça fait pas mal de trucs à éplucher. Crois-moi,
il y a Sam qui est occupé à faire Stranger Things
en plus. C'est compliqué. On nous demande, tiens, Perle Vivace, c'est un pseudo intéressant, nous demande si le phénomène des années VHS 80, est-ce que la VHS aura-t-elle le droit à une seconde vie un jour? Non.
On peut remarquer par contre le nombre incroyable de documentaires et tout consacrés à la VHS. Il y a eu une hype, il y a eu récemment sur Arte un très bon truc qui s'appelle VHS Révolution, il y a eu un autre truc je crois disponible sur je sais plus quelle plateforme de SVOD, enfin il y a vraiment un vrai côté doudou exploration.
C'est rentré dans la catégorie nostalgie.
Moi j'ai l'impression qu'il y a une logique d'objet en fait derrière, mais qui n'est pas liée comme au vinyle par exemple où on peut vraiment l'écouter. Je pense que le vinyle aujourd'hui, et je pense que la plupart des gens qui écoutent des vinyles aujourd'hui ne l'écoutent pas comme les écouter il y a 40 ans. C'est-à-dire tu t'installes ça sur sur ton enceinte Bluetooth ou ce genre de choses pour avoir le meilleur son possible. C'est faisable. Maintenant, acheter une VHS, regarder ça sur ta télé, 4K que tu viens d'acheter,
la seule chose qui pourrait être justifiée, ce serait la non-disponibilité du film en question. Ce qui existe, il y a des films qu'on a que en VHS, des raretés absolues.
Tout à fait.
Mais à la rigueur, dans ce cas-là, tu peux essayer de choper.
Ils sont généralement sur YouTube.
C'est ça, tu peux choper un VHS RIP, et dans ce cas-là, bon. Mais si personne l'a fait, je trouve la perle rare. Là, t'as une japonaise avec des cheveux gras qui sort de ta viseur.
Merde, c'est pas drôle pour toi. Roxane nous demande ce qu'on pense des projets de Tarantino sur Charles Manson. Est-ce qu'il aura des difficultés à monter son projet?
Je suppose qu'il apparemment, fait c'est pas sur Charles Manson. Ouais, c'est ce qu'il a annoncé hier.
Je voudrais parler de ça parce que moi, quand j'ai entendu pour la première fois parler du projet, donc ça a été présenté et relayé dans tous les médias comme un film sur les meurtres de Charles Manson et de la secte qu'il avait réunie autour de lui. Et en fait, moi, ça m'a fait penser à un film de Ross Meyer qui s'appelle Beyond the Valley of the Doll, qui est sorti en 1970. et qui, ce qui est assez signifiant pour Tarantino, parce qu'il a eu une obsession récente, il a regardé tous les films de l'année 1970. Et on a appris aujourd'hui, il s'est exprimé, alors il était un peu passé sous les radars parce que le coco oui. avec Harvey Weinstein,
oui, un peu embêté.
C'était quand même un peu compliqué. Donc il a expliqué aujourd'hui que ça serait a priori pas un film spécifiquement sur Charles Manson, mais un film sur l'année 1969. Le projet a l'air assez intéressant. Il a du coup, je pense, en tête, pour le coup, extrêmement bien le cinéma de l'époque. Et je pense qu'il a un projet. On peut lui faire confiance là-dessus d'un point de vue artistique. Sur les difficultés à réaliser le projet, bon, bah, il a plus de producteurs. Donc il va falloir et d'ailleurs il est à la recherche a priori d'un studio pour la production du film.
Voilà. Si vous avez un studio, n'hésitez pas.
Ben je connaissais Fairplay personnellement. Petite moyen de te faire un petit truc là dans le 15e arrondissement.
Qu'est-ce qu'il est bête. Qu'est-ce qu'il est. Il fallait que tu précises que c'était dans le 15e arrondissement.
Il a fait le tour de tous les studios sauf Disney.
Ah bah voilà.
Prochaine étape probablement, parce que Disney ne produit pas de films classés R en fait.
Ah oui,
c'est ça la logique. Oui,
alors qu'ils ont été propriétaires de Miramax à l'époque.
Oui, parce qu'ils le faisaient par des boîtes comment dire
détournées.
Ouais, voilà, c'est ça, ils avaient Touchstones aussi où ils faisaient des films d'action, ce genre de choses.
Ray Mathieu nous parle de Miller en procès avec Warner et des suites de l'impact que ça pourrait avoir sur les suites de Mad Max Fury Road. Alors je savais pas que George Miller était en procès avec
En fait il le paye pas sur ses droits et apparemment il doit récupérer 7 millions de dollars. Il y a un cas similaire en fait qui avait eu lieu à l'époque, c'était Peter Jackson justement sur le tout premier sur la communauté de l'anneau, qui en fait refusait à New Line en fait de bosser sur le Hobbit. Je te parle de ça en 2005-2006 en fait, parce que justement en fait
il y avait des droits bloqués
et ça s'est résolu de manière un peu détournée à cette époque là c'est que Bob Shea en fait le patron de New Line avait décidé que de toute façon c'était lui qui était derrière le succès du Seigneur des Anneaux, que ce n'était pas Peter Jackson, qui pouvait produire une nouvelle trilogie fantasy
s'il voulait
en mettant n'importe qui à la barre du projet, ça en lâchant juste 300 millions dedans, et voilà, et c'était à la croisée des mondes et ça s'est bidé complètement. Et du coup en fait Warner en l'occurrence qui venait de reprendre New Line lui a dit bon bah tu vas te mettre de côté et puis on va payer Peter Jackson puisque apparemment
ouais. Et donc avec Miller qu'est-ce que ça va donner?
En fait c'est difficile de savoir en fait si ça bloque vraiment la suite parce que
Wasteland,
il y a un exemple actuel, je vais prendre un exemple actuel, et Stallone est en procès avec Warner alors qu'il est en train
de préparer la suite
de Creed qu'il écrit, qu'il va réaliser. Donc en gros, business is business, quoi. Les deux sont possibles. Maintenant, peut-être qu'un mec comme Stallone, ça remonte sur des droits sur Demolition Man, donc c'est vieux, quoi. Peut-être que Stallone peut fonctionner comme ça, peut-être que George Miller ne peut pas fonctionner comme ça, quoi.
On ne sait pas. On l'appellera après l'émission pour savoir. Voilà. Une question qui est plus à direction, je pense, de David. Glass, la suite de Split, Avis et Espérance. C'est pour toi, ça, David. C'est clair.
On en avait parlé la dernière fois. C'était, je crois, le.
Il y a que trois projets qui valent le coup.
Il n'y a pas grand-chose, désolé.
C'était très proche du début du tournage. J'imagine qu'il continue à tourner.
Tu l'as appelé récemment.
Les espérances, elles sont les mêmes. Hein, et puis, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Moi, ce que j'attends d'Hollywood, c'est de faire des projets qui soient gratifiants pour le spectateur. Et j'en espère beaucoup de ce Glass-là. On a vu une petite photo de
Samuel L. Jackson.
Est-ce que tu crois qu'à la fin de Glass, il y a Mel Gibson qui va se pointer? On va réaliser que c'est aussi une suite de Signs.
Ces films-là, ça va encore.
Ouais. Ouais. Après, il y a Joaquin Phoenix, et puis en fait, c'est la suite du Village aussi. Puis il y a tous les mecs de la fille de l'eau. Puis il y a Mark Wahlberg qui parle à une plante.
On apprend qu'ils étaient morts depuis le début.
Mais en fait, ils sont morts depuis le début. Et c'est tout vu depuis les yeux du gamin dans Sixième Sens.
Moi, c'est une suite qui me fait très peur parce que j'adore vraiment Incassable, quoi. Et je pense que c'est vraiment son chef-d'œuvre. Et même si j'ai beaucoup aimé Split et que ça s'inscrit plutôt bien dans l'univers, même si les choses les plus évidentes ne sont pas forcément les plus réussies pour moi là-dedans, notamment l'apparition de Bruce Willis à la fin. Là, au moins, les images qu'on voit aussi, c'est qu'il joue avec l'âge, avec le temps qui est passé, c'est-à-dire sur Bruce Willis avec la barbe blanche, ce genre de choses. Donc, apparemment, ça va être intéressant. Ça va quand même être intéressant. Maintenant, bon, je pense pas que ça niquera la qualité du premier si c'est raté, mais t'as vraiment envie que ça soit réussi, quoi.
On nous demande, on va prendre une dernière question. Tom qui nous demande si on achète encore des DVD ou Blu-ray ou si on est tous passés au dématérialisé. Alors moi personnellement, je suis passé pas mal au dématérialisé, j'ai toujours beaucoup de Blu-ray.
Après, tu viens me faire chier avec Amazon.
Tout ça, c'est de la comédie, Stéphane.
Moi, c'est un enfer. J'ai 2000 DVD Blu-ray. C'est. Mais attends, alors, mais le truc, c'est que j'achète plus vraiment en France à part les films récents. Et il n'y a que aux États-Unis où tu trouves des vieux films. Enfin, si ça commence à arriver de temps en temps, il y a quelques trucs. Il y a éditions, un Charles Bronson, quoi. Mais quand tu cherches un truc un peu plus.
Sous la science de. On arrive dans cette période bénie, enfin plus ou moins bénie, mais assez intéressante.
Noël.
Les fêtes de Noël.
C'est pas il y a des bénie coffres.
Bénie de Noël. Ben alors, t'as changé depuis que tu travailles dans le 15e arrondissement.
Je pige aussi à Valeurs Actuelles. Hein, voilà.
C'est vrai. Tu l'as dit à tes amis de F de Souche, ça, parce qu'ils n'ont pas vu.
Ça fait sa petite.
Non, mais bon, par exemple, moi, je viens de recevoir les exemplaires presse d'un coffret. Hammer,
Journal
voilà, c'est les 13 films en Blu-ray qui sont sortis chez Elephant Films et c'est les Hammer qui étaient produits en collaboration avec la Universal, donc c'est les franco, enfin anglo, britannico-américains, etc. Et donc t'as ce genre de films là avec des super éditions, les super qualités de master, etc. Bon là en l'occurrence je les ai reçus comme un gros privilégié,
oui, tu es.
Mais sinon j'achète encore, enfin j'ai beau être abonné à Netflix et Amazon Prime et voilà, il y a piraté de temps à autre des films introuvables. Mais sinon j'aime bien acheter en fait c'est un truc un peu compulsif, genre quand il y a des offres et quand il y a des films comme ça, des coffrets de trucs qui ont l'air quand même assez cool, je ne peux pas résister. J'ai acheté récemment tous les James Bond en Blu-ray comme un gros con.
Tous les gendarmes à Saint-Tropez.
Moi ça me fait chier qu'un film comme Okja pour l'instant il n'existe pas en Blu-ray, quoi.
Voilà.
Surtout qu'encore une fois le streaming Netflix, même si tu as la fibre, ça, c'est pas la qualité optimale, quoi.
Sur un film aussi intéressant que ça, t'as quand même envie. Oui. Alors je dis ça de manière très hypocrite parce que j'écoute jamais les commentaires. Mais bon, mais ça me fait plaisir. Je sais qu'ils sont là.
Tu sais qu'ils
sont
là.
Si j'ai envie de les avoir,
c'est comme
certains podcasts. Bon, ben voilà, je les ai sur mon téléphone, je les écoute pas. Mais
tous les trucs de France Culture. Anaïs, toi t'es passé au dématérialisé.
Oui, complètement. Mais en fait, je peux même pas lire un DVD sur mon ordinateur portable. Donc même si je voulais, je pourrais pas.
Ordinateur de récente fabrication.
Voilà. Donc non, moi je suis 100% dématérialisée, mais effectivement entre Netflix, Amazon, tous les services de streaming disponibles et la magie d'Internet, on peut trouver. J'ai réussi à trouver toutes les palmes d'or depuis 1949 sur Internet, donc je pense que ça devrait aller, quoi.
Moi, je suis en train de passer au 4K. Donc tout ce que tu veux, je n'ai même plus le.
Il faut savoir que Stéphane finance à lui tout seul la production.
Netflix propose du 4K.
Non, mais tu vas voir Logan en 4K. Enfin, parce que là, c'est surtout les gros films récents, quoi. Voilà. Mais bon.
Et Adam Sandler sont en 4K.
Laissez David dire s'il achète des DVD. Je sais qu'il en achète.
Moi, j'ai essayé de faire toute une entreprise pour dématérialiser des DVD. Donc non, j'en ai encore pas mal à la maison.
Tout ça pour regarder les DVD des autres.
Et ça me donne l'occasion de faire un petit coup de gueule. Non, pas un coup de gueule, mais en tout cas une déception, c'est que il y a quelques jours a été
Je sais de quoi tu vas parler.
Je vais parler de Brian De Palma. A été réédité un magnifique bouquin d'entretien avec Brian De Palma qui était plus édité depuis des années et que j'avais bien envie de me procurer. Il a été réédité par Carlotta, qui est un super éditeur de DVD, surtout sur des films de patrimoine, et qui a fait depuis l'année dernière toute une collection avec des très beaux coffrets, avec des bouquins, et qui a notamment
Phantom of the Paradise.
Réédité deux Blu-ray de Brian De Palma.
C'était quoi le premier, j'ai oublié.
Et c'était Body Double.
Ah, Body Double, ouais, c'est ça.
Et en fait, ils sortent le bouquin 70€ avec 6 films en DVD, en plus, même pas des Blu-ray. Et dont Body Double et Phantom of Paradise qu'on a pu déjà acheter 50€ dans leur édition. Donc c'est hyper dommage, je trouve, de pas pouvoir avoir accès
à proposer juste le bouquin
et les Blu-ray dedans.
Voilà, sans les films que j'ai déjà en 12 exemplaires. voilà.
Mais tu l'as acheté quand même. C'est con. David, il y a quand même une question pour toi sur Movieland. On peut saluer la performance de David Honora. Bravo David.
Unrated.
Voilà.
voilà, qui a mené à bien et ô combien à bien son projet sur Kickstarter de cartes imaginaires du cinéma. Il y a Tristan qui nous demande si ce sera dispo ailleurs que sur le Kickstarter la carte. Donc je pense qu'il veut parler des gens qui voudront l'acheter après la campagne.
Voilà, pour les cadeaux de Noël.
La campagne est terminée. Ouais. Pour les cadeaux de Noël, c'est tout juste. À la limite, si tout de suite maintenant vous m'envoyez un mail, il y a moyen de s'arranger pour être dans l'envoi global. Je vais faire pour les backers. J'envoie à peu près 1400 cartes. Et après, j'ai des projets derrière. J'aimerais beaucoup faire un livre en fait qui suggérerait des itinéraires dans la carte, des thématiques, des choses comme ça, et pour pouvoir un peu aider à voyager dedans et de manière transversale. Donc je réfléchis à ce projet et du coup il y aura certainement d'autres vies et d'autres manières de
s'offrir la carte. Un guide du Movieland, quoi.
Au futur. Ouais, voilà.
Ah, c'est pas mal ça.
Ça serait cool.
Ça serait cool. Effectivement. Bon, on va se quitter là-dessus. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce deuxième Nos Ciné Club. Merci à Jules à la technique, à l'antenne Paris pour l'accueil. Nosciné.com. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur les réseaux sociaux, sur Facebook, qui nous ont posé des questions sur YouTube. On fait coucou à la caméra pour dire au revoir. Et donc il n'y a plus de Nos Ciné. Contrairement à ce que je viens de dire, binge.audio, c'est ça qu'il faut aller voir, binge.audio. Il y a David Carzon qui me fait des grands signes là-bas, c'est mon chef, pour toutes les infos utiles. On vous dit sinon à très vite.
Ta gueule, viens ici, sale enculé,
salaud.
Salut, c'est Mehdi Maizy, retrouvez Nos Fun tous les vendredis, le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel. Uniquement dans Nos Fun.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.